Jugez.
Boulevard.
Bien le bonjour, bien le bonjour. À 10h02, l'heure CV qui commence sur les ondes de Boulevard 102.1. Bien heureuse d'être avec vous en cette journée ensoleillée. Dehors, c'est froid, par exemple. Si vous n'êtes pas sorti ou vous êtes en télétravail, puis dans votre routine, votre horaire, il y a une petite marche ou quelque chose de prévu à l'extérieur aujourd'hui. Ça sera de s'habiller. Oui, parce que c'est frais, c'est frisquet, moins 3 degrés. On n'a pas eu beaucoup dans les derniers jours, alors on est un peu moins habitué. Mais ça pourrait monter jusqu'à 3 aujourd'hui avec du soleil parce que c'est majoritairement dégagé, oui, sur la grande région de Québec. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.1. Mes collègues et moi, on est vraiment contents de faire ce job-là grâce à vous. Honnêtement, vous êtes là en grand nombre, autant sur Twitch, twitch.tv/blvd/fm. C'est des caméras en studio qui vous permettent de voir les émission en direct avec, justement, des images. C'est gratuit, c'est facile d'accès. Si jamais vous avez de la misère à vous connecter, écrivez-moi au 418-971-1021. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez être accro à ça, je vous le garantis. Puis voir la bête de mes collègues en live avec toutes les niaiseries qu'ils se disent ou encore quand il y a de l'émotion et autres, ça vaut de l'or. Merci d'être là. Un bonheur de vous accompagner. Mon nom est Pascal CV. Une heure CV. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. On commence l'émission depuis quelques semaines déjà avec une citation qui a marqué l'histoire ou encore qui a marqué la littérature. Il y a celle de Confucius ce matin. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Elle est bonne. Elle est excellente ce matin. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Je trouvais que ça allait très bien avec le budget Girard qui est déposé aujourd'hui, budget du provincial. On savait déjà que les priorités étaient à la santé et à l'éducation. On savait déjà qu'il allait avoir un déficit. Le ministre Girard, le ministre de l'Économie, semble tout feu, tout flamme ce matin en présentant sa petite Bible bleue, soit son budget. Il y a beaucoup de journalistes ou encore de fonctionnaires. En fait, la gang de fourmis qui va fourmiller autour de ça est en huis clos aujourd'hui. Ça veut dire que les portes sont fermées, les gens ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas parler. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a absolument rien qui se passe autre qu'on épluche le budget Girard de fond en comble. Et si on ne comprend pas quelque chose, bien, il y a des fonctionnaires qui sont autour pour feuilleter tout ça et faire comprendre aux journalistes, aux gens qui gèrent des entreprises, à tous ceux qui sont présents finalement au huis clos, c'est quoi le budget? Pourquoi on a pris cette décision-là et qu'est-ce que ça veut dire? Suite à quoi? 16 heures ce soir, tout ce qui est huis clos, tout ce qui est fermé, embarricadé, ouvre. Et là, puisqu'on a compris un peu ce budget-là, les journalistes seront capables de nous dire ce qu'ils comprennent, où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est une énorme journée pour la province. C'est aussi une bonne journée pour les contribuables, mais en fait, vous allez avoir plutôt l'information et l'analyse de tout ça demain. Pour ceux qui avaient fait des demandes de dernière minute, je pense entre autres au regroupement des banques alimentaires au Québec. Là, on demandait, vous en rappelez, on en parlait la semaine passée, un 10 millions de dollars supplémentaires pour réussir à avoir plus de fruits et légumes dans les coffres, être capable d'emmagasiner des denrées supplémentaires, en fait, pour les demandes qui sont en montée constante. Peut-être que ça va être un petit peu plus difficile de mettre la main sur cette subvention additionnelle de 10 millions de dollars parce que, justement, c'était bouclé, finalement. On faisait imprimer le budget à ce moment-là, la semaine dernière. Mais bon, à suivre. Et surtout, c'est une journée importante pour Québec. Sinon, en vrac, Joël Lightbound ne sera pas candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il dit attendre un petit garçon en juin et souhaite se concentrer sur sa famille pour l'heure. Il y a également les élèves du CSS de la Capitale, de la Commission scolaire de la Capitale, Centre de services scolaires qu'on dit maintenant, qui seront en congé pour la fameuse éclipse. On dit que c'est un encadrement sécuritaire qu'on souhaite pour ces élèves-là, donc éclipse en avril prochain. Il n'y aura pas d'école pour les élèves de centre scolaire de la capitale. Retour du service normal au printemps pour le RTC, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va revenir aux horaires habituels dès le 23 mars pour les utilisateurs des autobus ici du réseau de transport de la capitale nationale. Je dois aussi vous dire qu'aujourd'hui, c'est assez important dans le dossier des pompiers qui sont décédés à Saint-Urbain. L'enquête publique du coroner va débuter le 15 avril. On vient de savoir ça au courant des dernières minutes. Rappelez-vous qu'ils ont perdu la vie lors des inondations de mai 2023. Ils ont essayé de porter assistance à des citoyens. Il n'y avait pas la formation nécessaire pour, être capable de jongler un peu entre essayer d'aider les citoyens, gérer le bateau dans lequel ils étaient. Il y a eu un débordement de la rivière du Gouffre et ils ont tenté de porter assistance à ces citoyens-là de Saint-Urbain. Malheureusement, ils sont décédés. On avait cherché les corps pendant longtemps. Et là, on veut permettre à ces corps de pompiers-là, qui sont pompiers volontaires, maintenant on dit, bon, pompiers temps partiel, d'avoir peut-être des formations supplémentaires. Et il y en a des services incendie, aussi des pompiers à temps partiel qui ont cette possibilité-là d'avoir des formations. Je pense entre autres à Alain Saint-Arnaud. Ça, c'est un des meilleurs formateurs qu'on a au Québec qui s'est donné corps et âme dans les dernières années à former beaucoup de corps de pompiers, hein, des corps de service incendie ici dans la région de Québec. Je pense aux pompiers de l'Ange Gardien, de Bois-Châtel. Je sais également que ceux de la ville de Québec qui l'ont fait régulièrement, cette formation en sauvetage nautique et même, bon, justement, un rafraîchissement régulier là-dessus. Puis il y en a aussi, dans certaines municipalités, des services incendies qui ont fait appel à ce genre de formation qui n'est pas obligatoire, mais qui est certainement essentielle quand on voit une nouvelle comme celle-là et qu'on a perdu deux vies, en fait. Mais bon, les audiences, l'enquête du bureau du coroner sera commencée à partir du 15 avril prochain dans ce dossier-là. On veut éclaircir les circonstances des décès. On veut analyser tous les facteurs qui ont contribué malheureusement à ce décès-là pour proposer des pistes de solutions pour une meilleure protection de la vie humaine par la suite. Je vous dirais, c'est des grosses nouvelles qu'on a aujourd'hui dans l'actualité. Bien sûr, à l'international, il y a tout ce qui est Haïti, Ukraine. On en reparle dans un instant. Et il y a les scandales habituels, soit Investissement Québec, des millions dépensés, mais on ne sait pas où. Et on voit une belle photo du ministre Fitzgibbon sur cet article du Journal de Québec. On dit que, et je vous le lis là, intégralement, « Prétendant vouloir protéger des renseignements personnels, Investissement Québec refuse de dévoiler dans quel commerce ses employés utilisent leur carte de crédit corporative. Impossible donc de savoir s'ils choisissent de dîner chez Thai Express ou chez Toké avec l'argent des contribuables. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Ben, pour l'instant, on ne saura pas. C'est ce que nous dit Investissement Québec. Merci d'avoir choisi l'heure CV. Comme je vous disais, c'est un maximum de 3 degrés aujourd'hui. Un peu plus tard à l'émission, on reçoit Patrick Mathieu, notre expert en sécurité informatique, pour sa chronique de la semaine. On va aller jaser de Arrive Cannes et on va aller jaser aussi de toutes les fraudes qu'on a vues à travers le temps, dans les dernières années. Est-ce que vous vous êtes fait frauder? Est-ce que ça a changé votre profil de contribuable, votre profil financier, économique, comme quoi TransUnion, par exemple, considère que vous êtes un très mauvais payeur, puis ça vous nuit dans la suite d'achat ou encore dans votre vie au quotidien? Le fait que vous êtes fait frauder, vous n'avez rien demandé à personne, puis vous êtes rendu sur la liste noire des mauvais payeurs. Ah, on va en jaser avec lui. Y a-t-il des solutions à ça ou on est condamné? Également, notre collègue Jeff Fortin sera là dans quelques instants pour nous parler de tous ces échanges dans la NFL. Ouais, on va parler un peu de sport, puis on va parler un peu de football. On s'en ennuie du football, même on s'en ennuyait la veille du Super Bowl. Je sais pas pour vous, là. Facile de nous contacter au 88-971-1021. J'attends vos salutations, mais surtout, si vous avez des choses à signaler sur la route ou un peu partout, c'est la façon la plus rapide de communiquer. It's all! C'est une reprise de Fortune Cookie Club, un peu à la boulevard 102.1. De retour à l'heure CV. Ouais, ben on va parler un peu de football parce que on s'attendait pas à ça hier, une aussi grosse journée dans la NFL. Vous allez dire, voyons. La saison n'est pas recommencée. On est en plein hockey, on tripe. La saison n'est peut-être pas recommencée, mais il y a du branle-bas de combat à signaler dans la NFL. Et deux fans comme Jeff Fortin et moi avons été surpris de la journée d'hier. Salut, Jeff.
Salut.
Merci d'accepter de jaser foot avec moi. Là, pour ceux qui ne sont pas sport, coulez-vous un petit café puis surfez avec nous. On vous explique
bien
pourquoi.
Bien sûr.
Je vais essayer de vous attirer en vous disant, je trouve que la journée d'hier a eu un profil d'échangisme. Donc, pas au niveau des mœurs légères ou encore des plaisirs de la chair, mais il y a plein de joueurs qui ont été échangés d'équipe. Ce qui va faire en sorte qu'on ne saura plus qui joue pour qui aux abords de la prochaine saison de football dans la NFL, mais surtout que la prochaine saison risque d'être aussi colorée, spontanée et impossible à prévoir que la dernière.
Totalement.
qu'est-ce qui s'est passé hier?
Ben écoute, c'est passé un mouvement de personnel au niveau des porteurs de ballon. Puis on dit souvent que les porteurs de ballon, c'est les enfants mal aimés de la NFL parce que c'est eux qui font une énorme besogne. T'sais. Ils vont porter le ballon en 20-25 fois par match. Là, maintenant, on joue beaucoup à deux porteurs de ballon, donc on partage le travail.
Ils sont ciblés pour les plaquer.
Exactement, ils sont ciblés pour les plaquer. Ils vont faire beaucoup de... vont faire beaucoup de blocs pour protéger le corps arrière.
Et risque puis, de blessures supplémentaires.
Risque de blessures supplémentaires, ce qui fait en sorte que les porteurs de ballon n'ont pas nécessairement des gros salaires comparativement au corps arrière. Donc, c'est ce qui fait toujours une polémique dans la NFL.
Ben, ça, honnêtement, là, mini parenthèse, ouais. Effectivement, parce que si ta carrière s'arrête parce que tu as eu plus de risques de blessures que d'autres joueurs, mais que ton rôle était essentiel, je trouve que ça devrait peut-être être revu.
En effet.
Parce que si ça arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que tu fais en plus que tu es blessé? Bon, peu importe.
En effet, les dirigeants de la NFL vont toujours se protéger en disant « Ouais, mais justement, parce qu'ils ont trop de risques de blessure, je ne vais pas leur donner X nombre de millions garantis ouais. parce que ça ne sera pas payant pour moi en bout de ligne. » Mais
on le comprend côté finance et économie, oui. Mais un peu moins côté humain et joueur.
Ah oui, mais c'est vrai que c'est les enfants mal aimés de la NFL, il n'y a pas de doute. Mais hier, il y a eu deux gros mouvements au niveau des porteurs de ballon. Premièrement, Shaquan Barkley qui était avec les Giants de New York qui viennent de signer un contrat de 3 ans pour 38 millions avec les Eagles de Philadelphie. C'est un gros mouvement parce qu'il reste au sein de la même division. Donc, il fait juste partir de New York, s'en allait à Philadelphie. Alors, il va affronter deux fois par saison les Giants. Donc, c'est sûr que les Giants, en laissant aller Shaquan Barkley, s'attendaient peut-être pas à ce qu'il reste à l'intérieur de la division. Ça va faire mal à l'équipe
quand
de New York.
Quand un joueur qui va jouer pour la même, ben, dans la même ouais. division, mais dans, au sein d'une autre équipe, mm-hmm. OK, transfuge, on va le dire comme
ouais,
ça.
Oui.
Est-ce que des règles dorées ou des règles non écrites qu'il n'a pas le droit de parler des jeux qu'il a appris au sein de son ancienne équipe pour utiliser ça contre
non,
son ancienne équipe?
Non, ça fait partie du jeu. Donc, il peut arriver et dévoiler des choses. Exactement. Tyreek Hill l'avait fait avec les Dolphins de Miami par rapport à Pat Mahomes. Il expliquait que les Chiefs de Kansas City avaient 15-16 diapositive PowerPoint qui explique, OK, Mahomes, quand il glisse de cette façon-là, ben toi, ton tracé maintenant, il devient de telle façon,
il avait fait
telle
leur
façon. Exactement.
Oh!
Fait que c'est tout ça qui
est. C'est à calculer pour un coach ou pour les échanges.
Oui,
hein?
Exactement. C'est à calculer. Il y a également un porteur de ballon, là, c'est une nouvelle de dernière heure. Normalement, Aaron Jones, qui oui. était avec les Packers de Green Bay, qui, hier, les Packers y ont montré la porte pour accueillir Josh Jacobs dans leur rang. Un contrat de 4 ans, 48 millions. Josh Jacobs était avec les Raiders de Las Vegas. L'an passé, mauvaise saison, mais il y a de cela 2 ans, meilleur porteur de ballon de la NFL, 1653 verges. Donc, Aaron Jones s'en irait également chez l'ennemi avec Minnesota pour un contrat d'un an, 8 millions, avec les Vikings au sein de la même division que les Packers.
Comment ça s'explique pour un joueur qui est hautement apprécié puis quand même assez compétent sur mm-hmm. le terrain de faire un échange comme celui-là?
C'est tout simplement l'âge. Aaron Jones est rendu à 29 ans. Josh Jacobs est de 3 ans, son cadet. Donc, on vient de signer Jacobs 4 ans. Les Packers, l'an passé, ont eu beaucoup de difficultés à courir au centre du terrain. Jones étant un porteur de ballon plus versatile. Alors, on veut améliorer cet aspect-là du jeu, donc on est allé chercher Josh Jacobs.
Mais c'est un échange risqué quand même.
Ça demeure toujours risqué de signer un porteur de ballon 3-4 ans, raison justement du potentiel de blessure. Mais hier, s'il y a bien une chose, peut-être pas au niveau du salaire, mais au niveau de la durée des contrats, c'est une chose que les porteurs de ballon étaient capables d'aller chercher. DeAndre Swift a signé 3 ans avec les Bears de Chicago. Tony Pollard était allé signer 3 ans avec les Titans du Tennessee. Antonio Gibson, 3 ans comme réserviste avec les Pats de Nouvelle-Angleterre.
C'est plus long que ce qu'on voit habituellement.
En plein ça, donc les gars ont réussi à se sécuriser quand même un emploi sur quelques années là, avec quand même un bon montant là, en millions garantis.
Je trouvais ça intéressant de jaser. C'est sûr que c'est mon équipe, les Bengals de Cincinnati, mais il y a Higgins qui a été un joueur étoile dans les dernières années pour la formation. Mm-hmm. Normalement, Joe Burrow, le corps arrière, joue de façon assez merveilleuse avec Ja'Marr Chase parce qu'ils ont joué ensemble à l'université, se sont suivis après de nombreuses années. Joe Burrow, qui a le meilleur salaire de la Ligue comme corps arrière depuis 2 ans. On a critiqué ça parce qu'on se disait, mon Dieu, si tu donnes un aussi gros salaire à quelqu'un, est-ce qu'il en reste pour les autres? Et Chase, son acolyte des dernières années, a tenté, en tout cas du moins, de passer son message tout au long de la saison en disant « je suis disponible ». Ce qui a inquiété un peu mm-hmm. l'équipe parce que les deux jouent très bien ensemble.
Bien
un
sûr.
Peu moins lorsque c'est quelqu'un d'autre que Ja'Marr Chase avec Joe Burrow. Cependant, Higgins a toujours été un joueur étoile. Et lui a demandé à se faire échanger. Un joueur qui demande publiquement de se faire échanger, donc d'aller jouer avec une autre équipe, s'il n'est pas pris ailleurs, quelle ambiance ça amène dans une équipe, selon toi?
La raison pourquoi il l'a demandé, puis il y en a énormément qui font la même demande, c'est parce que dans la NFL, tu peux mettre le tag de joueur de franchise à un joueur. Donc, ça l'oblige à rester avec cette équipe-là, puis c'est avec un salaire moyen des dernières années. Donc, dans le cas de Tegan, c'est ce qui lui est arrivé. Les Bengals de Cincinnati ne sont pas capables de s'entendre à long terme avec lui. Donc, ils lui ont mis l'étiquette de joueur de franchise. Ce que ça fait, c'est que ça te le sécurise pendant un an, mais par la suite, il peut devenir joueur autonome ou tu peux y aller d'une deuxième année avec le tag de franchise. Mais les joueurs n'aiment pas ça, avoir ça, parce qu'ils se retrouvent menottés. Ils ne peuvent pas négocier un nouveau contrat. Ils peuvent pas... Le sport de la NFL est un sport très à risque de blessure. Donc, s'il arrive une blessure, ben, ils vont repasser leur chance d'avoir signé un contrat à long terme. C'est arrivé l'an passé avec Shaquan Barkley, avec les Giants de New York. Il a raté tout le camp d'entraînement. Finalement, il est venu jouer la saison. Puis là, il vient de signer avec les Eagles de Philadelphie. Donc, Tegan prend un peu le même pari, c'est-à-dire de dire « Hey, je vais buter le camp d'entraînement, je vais voir ce que les Bengals sont capables de faire pour moi, puis peut-être que je viendrai jouer la saison. » C'est pas étranger, il y a même des joueurs avec ce tag-là qui n'ont pas joué dans une année. Je pense à Le'Veon Bell, qui était avec les Steelers de Pittsburgh, il y a de cela quelques années. Mais souvent, quand tu joues pas pendant un an, t'es pas capable de reprendre le retard mais par non, la suite, non, parce que c'est tellement compétitif. Fait que je crois pas qu'on revoit ça. Mais dans le cas de Tegan, il joue tout simplement le jeu de joueur qui s'est fait mettre le joueur franchise, et puis c'est ce qui lui fait demander un échange. Tu vois, il y a Brian Burns hier qui a été échangé aux Giants de New York, un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL. Lui, la même chose, les Panthers de la Caroline lui avaient mis le tag de franchise. Il a demandé à être échangé, il a été échangé hier. Donc, ça ne serait pas surprenant de voir Tegan être échangé d'ici le début de la
saison.
Mais
ça, pour une équipe qui commence à avoir plus de déboires que de succès, quand justement, il y avait eu un gros bandwagon autour des Bengals qui se sont quand même rendus au Super Bowl assez rapidement. Merci pour une équipe qui n'avait pas gagné dans les dernières années. Je trouve que c'est un risque de ne pas valoriser leurs bons joueurs à leur juste valeur.
Oui, puis souvent, ça cause du plafond salarial. Et là, ce qui arrive, c'est que tu lui mets le tag de franchise. Fait que comme ça, pour un an, tu t'assures de rentrer dans le plafond salarial. Puis après ça, tu essaies de restructurer certains contrats, tu laisses aller des joueurs autonomes. Peut-être que Tegan va signer à long terme aussi parce que les Bengals ont fait un autre mouvement hier. Ils ont laissé aller le porteur de ballon, Joe Mixon, pour signer Zach Moss qui était avec les Colts d'Indianapolis, 2 ans, 8 millions. Donc, on vient vraiment réduire le salaire au niveau des porteurs de ballon. Alors, peut-être que ça peut laisser présager une signature de Tegan.
Est-ce qu'on a d'autres choses à souligner dans cette grosse journée d'échangisme d'hier?
Kirk Cousins, qui était le carrière le plus prisé, s'en va avec Atlanta, finalement, 4 ans, 180 millions.
Pourquoi Atlanta? Est-ce que c'est à cause du 180 millions? Parce que il avait pu aller ailleurs.
Il manquait juste ça à Atlanta. Ils ont un jeune porteur de ballon électrisant avec John Robinson. Un excellent jeune receveur de passe en Drake London et un excellent jeune ailier rapprochant Kyle Pitts. Donc, c'était une belle destination pour un carrière pour aller connaître du succès. Puis, dans une équipe qui est dans une division un petit peu plus faible,
les Falcons
risquent de surprendre.
L'année prochaine.
Dès l'an prochain avec Kirk Cousins, il n'y a pas de doute dans mon esprit.
Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux fans, selon toi?
Des Falcons? Ben oui, surtout au Québec, parce qu'on a Mathieu Bergeron, le petit Québécois qui joue sur la ligne offensive pour protéger Kirk Cousins. Donc, c'est sûr qu'il y a des nouveaux fans des Falcons à l'heure actuelle.
On va voir des chandails blancs et mauves poussés un peu partout, peut-être même à Québec.
Yes!
Hey, nouvelle de dernière heure qui est dans le football, mais qui est un petit peu aussi dans les potins-potins. Le corps arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, il a déposé une poursuite contre une femme et ses avocats parce qu'il prétend avoir été victime d'une tentative d'extorsion. C'est le magazine Sports Illustrated qui a sorti ça ce matin. C'est une journée après que le footballeur ait déposé ces documents-là juridiques dans le tribunal du comté de Collin au Texas. Ce qu'on dit, c'est qu'en janvier dernier, Prescott a reçu cette lettre qui provenait de la part des avocats d'une femme là, qui l'accusait de l'avoir agressée sexuellement en février 2017. Puis ça, on s'entend, c'est de hautes accusations, ouais. Surtout pour quelqu'un qui est public dans le sens où s'engage énormément dans sa vie, quoique s'engage énormément dans la vie de tous et chacun. Puis, elle était prête à renoncer à une poursuite des accusations criminelles et à ne pas divulguer d'informations dans le public, mais en échange d'une indemnisation pour les traumatismes qu'elle a vécu. C'est ce qu'elle disait, là. Elle a vécu, nous, on dirait, elle aurait vécu.
Ben oui.
Des dommages qui étaient évalués à 1 million de dollars facilement et même plus, OK? Parce que quand tu regardes, là, on a demandé un peu plus qu'un million de dollars en réparation. Et là, lui, il se défend puis il dit, j'ai été victime, finalement, d'une tentative d'extorsion. Je ne suis pas là-dedans pantoute. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Je n'ai pas fait ces gestes-là. Ça se retrouve aussi dans le monde de la NFL en ce moment.
Yes!
Merci, Jeff Fortin.
Fait plaisir, parce qu'elle s'éveille.
On va suivre ça avec attention, parce que même si la saison de la NFL n'est pas recommencée, ça bouge.
C'est le branle-bas de combat.
Et oui, très bien dit. Et la prochaine saison sera magnifique et spontanée.
Clairement.
Il y a quelque chose qui se passe dans la NFL depuis les 2-3 dernières années. Ça veut dire qu'à chaque game, il y a quelque chose de le fun.
Ouais.
Et on ne peut plus autant prédire qui gagnera depuis le départ de qui?
Depuis le départ de Tom Brady.
Depuis le départ de Tom Brady. On se retrouve dans un instant dans l'RCV. C'était Jeff Fortin. Vous pouvez l'écouter dans Rage Against le matin avec Rage et Max ici à Boulevard 102.1.
On connaît tous une personne qui a tout...
En début d'émission, on jasait de ces fraudes-là. Hein? Les fameuses fraudes sur votre compte de crédit ou encore dans vos finances ou encore de votre identité. Puis il y a des gens qui ont fait des demandes, qui ont affecté en fait votre code de crédit puis même votre rapport avec les dossiers de mauvais payeurs. Je m'explique, si vous regardez avec TransUnion, si vous faites encore partie des gens sur lesquels on peut se fier si jamais on a à prêter de l'argent ou à aller en crédit. Puis vous vous rendez compte, finalement, vous êtes sur la liste noire des petits sacripants qui ne sont pas capables de payer, mais que vous n'avez jamais rien fait en ce sens-là. Vous avez toujours bien payé. Peut-être qu'on fait le saut, puis on peut se demander quelles sont les solutions. Souvent, c'est très, très long et souvent, ça impacte justement notre pouvoir d'achat, notre pouvoir aussi de vivre puis de faire des choix économiques qu'on aurait normalement pu faire si on ne s'était pas ramassé sur cette liste noire vu des fraudeurs. Je vous pose la question. Est-ce que ça vous est arrivé dans les dernières années? Est-ce que vous avez dû faire affaire avec des dossiers de crédit très négatifs qui finalement ne vous concernent pas? On va en parler dans un instant avec notre prochain invité. Il est au bout du fil. Il s'appelle Patrick Mathieu. C'est notre expert en sécurité informatique. Salut, Patrick. Merci d'être à l'émission ce matin. Est-ce que tu m'entends, Patrick?
Yeah, bon matin.
Super, bon matin. On va parler de ça avec toi dans quelques instants. Juste avant, dans l'actualité ce matin, il y a tout ce qui est ArriveCan qui est revenu. GC Strategies qui a eu des contrats pour 3 autres applications. Ça, c'est ceux qui s'occupaient de l'application ArriveCan qui finalement nous a coûté extrêmement trop cher pour ce que c'était et qui n'a pas tant servi finalement. Est-ce que tu es surpris qu'on n'ait pas regarder dans les archives le travail de cette entreprise-là qui n'a pas été menée comme il se doit et qui avait peut-être un peu pesé sur le crayon de ce qu'on tente de lire entre les lignes quand est venu le temps de demander un chèque au gouvernement?
Ben, je veux dire, on voit ça malheureusement à tous les niveaux gouvernements depuis plusieurs années, mais là, c'est comme la goutte de plus qui fait presque déborder le vase parce que je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des conséquences. Mais ce qu'on voit qui se passe dans les derniers jours, semaines, même on a trouvé une discussion avec le directeur là, qui gère la technologie au Canada, le responsable des technologies du Canada, qui donne une réponse totalement fausse sur la raison pourquoi ils ont même perdu 1700 courriels dans les boîtes de courriels où ce qui était la communication avec les prix qui étaient discutés.
On dit qu'on a perdu les échanges dans lesquels on jasait de combien ça va coûter puis l'entente qu'on va faire pour justement mener au chèque final par la compagnie qui allait monter à ArriveCan.
Qui aurait comme pu prouver que le gouvernement, les employés du gouvernement ont fraudé le tout. Fait que tu sais, par magie, ce qu'ils ont dit, le responsable dit, les courriels, des fois, il y a des erreurs sur les ordinateurs, ça disparaît. C'est l'ancien directeur de la cybersécurité du Canada, le gars connaît de quoi qu'il parle, donc nécessairement, soit il est rendu extrêmement incompétent ou il mente tout simplement parce que les systèmes du gouvernement et leurs courriels sont pas sur les postes des personnes, c'est centralisé sur des serveurs. Donc, s'ils ont perdu les courriels pour vrai, je veux dire, c'est malheureusement une équipe extrêmement incompétente de ne pas avoir de backup. Et s'ils ne les ont pas perdus, ben c'est nécessairement des mensonges et de la fraude qui est en place pour des personnes au gouvernement qui se payent avec cette entreprise-là. Parce qu'il faut dire, GC Strategies n'a rien exécuté. Ils ont simplement demandé des millions puis ils ont redistribué le contrat à des sous-contractants pour peu d'argent.
Ça a été finalement l'engrenage entre le gouvernement et ceux qui ont conçu l'application ArriveCan. T'sais, rappelons que ça devait aller assez vite. ArriveCan, on en a eu besoin durant la pandémie. C'était une façon de vérifier que les gens qui voyageaient étaient vaccinés. Bon, avec de certaines preuves qui étaient enregistrées sur cette application-là qui, à l'aéroport, était vérifiée.
C'est très simple là, comme application. C'est simplement un formulaire de rentrée des données, uploader photos, certificats de vaccins, peu importe. Le projet a été refait par 2 personnes en moins d'une journée ou deux. Fait que ça coûte plus ou moins 5 5 à 10 000 $ comme application. On est rendu à 65 millions.
OK. Toi, t'évalues que avec comment vous avez refait cette application-là, comment est-ce que vous avez recréé ArriveCan, par exemple, ArriveCan 2.0, là, ouais. Ou Arrive Canada, tiens, changeons ça pour ça, ça coûte un 10 millions, vous avez dit? Non, pas 10 millions.
Non, quelques milliers.
Quelques
ça
milliers.
Coûte rien, c'est simplement un formulaire oui. dans une application. C'est une question d'heure.
Oui.
Puis là, ce qui se passe, c'est qu'ils disent, d'abord, les données disparaissent, les courriels disparaissent, mais en plus, la tenue de livre, la tenue de qu'est-ce qui était supposé d'être fait, n'a pas été fait. Puis ça n'a aucun sens que ça n'a pas été fait. Donc, ça sent la fraude, mettons, légale à l'intérieur d'un gouvernement. Là, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir là. Parce qu'une application de quelques milliers de dollars qui coûte plus de 65 millions, nécessairement, l'argent s'en va à des amis, là. C'est quelque chose comme ça.
Okay, toi, tu as vraiment cette impression-là. Est-ce que ça peut être défendu, par exemple, par la rapidité avec laquelle on devait le faire et que le gouvernement a peut-être pas fait les vérifications nécessaires pour que ce soit bien fait et au coût où ça devait être? Là?
Oui, si ça avait coûté 100 000. C'est, on peut pas faire fois 700 fois le prix initial. Si on estime que le coût pourrait être de 50 000 avec profit, là, parce que ça coûte vraiment moins que 50 000, à 60 quelques millions, là, c'est plus de 700 fois le prix estimé de cette application-là.
Pour toi, c'est
ça n'a aucun sens. Je veux dire, oui, nécessairement, je pense que tu as raison. Là, ça a été fait tout vite, tout croche, puis ils ont dit oui à tout. Mais ça prouve que notre gouvernement, autant fédéral que provincial, parce qu'on l'a vu à tous les niveaux là, dans les derniers mois, si c'est pas corrompu, c'est rempli de personnes qui savent pas ce qu'ils font, faut que ça soit dégraissé, faut réduire et enlever les personnes qui ont pas d'affaires. Là.
Et toi, tu clames souvent que c'est plutôt un manque de compétences ou encore de fonctionnaires à l'affût des dernières technologies ou à l'affût de comment ça se passe ou à l'affût des coûts de
dans une machine
de telles
qui leur permet pas de rien faire. Oui. C'est la bureaucratie en arrière de ça, même si certains... Parce qu'il y en a plusieurs qui sont là, qui ont du talent, qui veulent faire les choses comme il faut, mais la machine leur empêche de le faire. Fait qu'il y en a beaucoup qui abusent cette machine-là, puis qui font absolument rien. Et ceux qui ne font rien, qui n'ont pas les compétences, ne peuvent pas être mis dehors à cause des syndicats. Fait que c'est un beau service.
Un ramassis de « nous devons aller clairer quelques affaires dans ces dossiers ». Et c'est ce qui se passe aussi avec ArriveCan. Une version initiale de l'application qui a coûté 80 000, mais son coût qui a grimpé en flèche pour atteindre plus de 59,5 millions de dollars. C'est ce qui est rapporté dans la presse ce matin. Ce n'est pas terminé. En fait, on va en jaser, c'est sûr, assurément encore plus dans les prochains jour avec ce qui est sorti dans l'actualité ce matin. Autre chose que je voulais aborder avec toi, parce que là, ça réagit en grand nombre. Patrick, il y a des fraudes, on le sait, économiques. Il y en a qu'on ne se rend même pas compte en tant qu'individu. Tu sais, quand on se fait frauder, on se fait voler nos informations, puis qu'il y a plein de demandes de crédit qui sont faites sous notre nom, puis on n'en a pas conscience, on ne le sait pas, bien, ça affecte notre code de crédit. Le jour où on veut aller la vérifier, puis on se rend compte qu'on est sur la liste noire des mauvais payeurs ou des gens avec qui on ne doit pas faire affaire si jamais on demande à une entreprise, par exemple, du crédit ou autre, on peut faire le saut. Le hic, c'est que les solutions ne sont pas énormes et surtout, ça demande beaucoup de temps. Puis quand tu es rendu à faire cette demande de crédit-là, c'est parce que tu as une idée de ce que tu veux acheter, tu es rendu dans un projet, tu es rendu de... Et je demandais aux auditeurs, avant de te parler, est-ce que ça vous a concerné dans les dernières années? Et déjà, beaucoup de textos, des gens qui disent effectivement, moi, je vis avec cette situation-là, c'est très long, il faut appeler Equifax pour mettre une alerte à la fraude, plus bloquer le dossier, même chose pour TransUnion, plus une plainte à la police. Puis encore là, il faut être cru, il faut des preuves. On n'a pas toujours ça. Des gens qui disent, moi, je suis rendue sur la liste noire parce que mon ex a fraudé le gouvernement avec mon nom. C'est un bon ex quand même, c'est vraiment le fun. Elle dit, c'est dur de se refaire un crédit. Maintenant, je ne ferai plus jamais confiance aveuglément, mais quand même, je suis sur la liste noire et ça m'impacte énormément. Je peux même plus avoir de carte de crédit. Ça, Patrick, on a vu ça plus qu'une fois, là.
Oui, c'est constant. Je pense qu'il y a eu plein de documentaires en ligne, des journalistes qui en ont parlé. Dès qu'on se fait frauder, vol d'identité et autres, c'est généralement 1 à 5 ans sortir de là. La police n'est pas vraiment équipée pour ça. Tout ce qui est TransUnion et Equifax, c'est une blague. Dans le fond, eux sont là pour faire du profit. Ils sont pas là pour gérer vos données. Vos données, ils les revendent ailleurs. C'est vraiment pas fait pour bien gérer ces choses-là. Il y a même eu des recherches qui ont été faites qui prouvent que la majorité des codes de crédit sont en erreur, c'est pas les bons montants, c'est mal fait, c'est mal géré, le système est brisé malheureusement. Puis en plus, t'as plus qu'une entreprise. Fait que c'est pas juste Equifax, faut que t'en appelles une autre. Si tu veux gérer ton dossier, ben faut que tu les payes tant par mois pour voir c'est quoi qui se passe. Puis quand il y a une fraude, puis tu leur donnes toutes les preuves, ben ils l'ajustent pas le montant bien souvent.
Okay, mais là, il n'y a pas de solution. Vous, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de solution si tu te
ben,
fais
il y a des solutions,
si tu te fais frauder.
Faut changer tout ça. C'est ça qui est plate. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de bonne solution, ça c'est clair. La bonne solution, c'est avoir une vraie bonne identité, parce que le Canada en a pas. Avoir une identité un peu sécurisée, électronique, etc., qui permet de tracer toutes ces choses-là, puis de corriger en cas d'erreur. Mais, je veux dire, on est à des années de là.
Et ça, en tant que citoyen, Patrick, on ne peut pas vraiment faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen si tu te fais frauder, tu t'en rends compte deux ans plus tard?
Malheureusement, la seule chose à faire, c'est de s'inscrire aux deux organisations pour voir votre code de crédit. TransUnion, je ne suis pas certain, mais Equifax, on peut bloquer le crédit. Fait que personne ne peut aller faire des demandes sous votre nom sans avoir un certain code où vous vous connectez en ligne pour le débloquer. Fait que ça, allez faire ça. Mais malheureusement, il faut quand même avoir accès à ces systèmes-là. La seule différence, c'est que le gouvernement du Québec a forcé les entreprises à mettre ça gratuitement, le bloc. Parce qu'avant, c'était payant, je ne me souviens plus du montant. Les États-Unis l'ont forcé à être gratuit. Le reste du Canada ne l'ont pas encore forcé. Fait que ça démontre encore une fois que ces entreprises-là sont pas là pour votre sécurité. Ils sont simplement là pour faire de l'argent tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit de rendre le service gratuit. Donc, c'est quand même déplorable. Donc, ce qui est recommandé, c'est 100% aller bloquer vos crédits pour pas que quelqu'un utilise votre nom et le crédit en arrière sans que vous le sachiez, parce que ça paraîtra pas, puis vous n'aurez pas vraiment d'alerte pour rien quand ça arrive. Puis même s'il y a une alerte, bien, il est trop tard.
Ben non, c'est ça. Puis même, il y a un chroniqueur ici qu'on reçoit, parfois un chroniqueur économique, Francis Gosselin, qui, lui, s'est fait frauder dans les dernières années, aussi simplement qu'en ayant perdu ses informations personnelles, c'est tombé entre les mains d'un fraudeur. Il s'est acheté un iPhone 9 à crédit, il n'a pas fait les paiements, et son compte a été transféré à une agence de recouvrement qui en a informé TransUnion, et voilà pourquoi maintenant, lui est en train de passer des heures et des heures au téléphone depuis 2 ans, pour refaire son crédit, refaire son nom, finalement. Dans tous les bureaux de crédit qui génèrent de l'information financière, il est pris là-dedans, puis il est sur la liste noire des mauvais payeurs. Mais quand je t'entends parler des solutions, tu me dis « allez s'inscrire et allez vérifier ». De façon très simple et concrète, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire? C'est en tapant sur Google TransUnion, c'est en tapant sur Google Equifax, puis en allant s'inscrire, parce que tantôt, tu disais quand même qu'ils ne peuvent pas aider à 100%, mais tu le ferais quand même, toi, aller t'inscrire sur ces deux plateformes?
Oui, 100%, puis aller bloquer votre crédit sur les deux. Je pense que la majorité des Québécois a quand même des comptes là-dessus, considérant les milliers de brèches qu'on a eues dans les derniers 3-4 ans. Fait que votre 5 ans de Desjardins doit être encore disponible pour la majorité. Donc, utilisez ça pour aller sur Equifax, bloquer votre compte, puis allez vous inscrire à TransUnion pour le bloquer aussi.
Tu veux dire, tu as 5 ans sur Equifax, c'est quand il y a eu la grosse fraude Desjardins où on offrait gratuitement les services d'Equifax à ceux qui s'étaient fait avoir?
Oui, puis en même temps, ce qui est ridicule de ce système-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une brèche, il n'y a pas de conséquences pour les entreprises. La seule chose qu'ils vous donnent, c'est un 5 $ par mois pour financer finalement ces entreprises-là qui vous abusent parce qu'ils ne vous aident pas vraiment. Fait que regardez n'importe quelle dernière brèche qu'il y a eu, la seule conséquence que ces entreprises-là font, c'est de donner des inscriptions à Equifax puis à TransUnion.
Mais bon, ça semble être la seule solution malgré que je t'entends parler avec un peu d'ironie dans tout ça, au moins pour avoir une alerte. Un gros merci, Patrick Mathieu. Je ne sais pas si c'était rassurant, cette chronique-là, mais chose certaine, c'était éclairant. Expert en sécurité informatique, on te reparle la semaine prochaine.
Yes, bonne
salut, bonne semaine. Ouais, vous commencez et vous continuez de texter à ce sujet-là au 88-971-1021. Je me rends compte qu'il y en a énormément qui se sont fait avoir de cette façon-là. Bon, le conseil étant, bien qu'on ait un peu les mains liées dans tout ça, c'est d'aller vous inscrire aux alertes si vous ne l'avez toujours pas fait. Mettez ça dans votre liste de choses impératives à faire pour les prochaines heures ou les prochains jours, parce que quand vient le temps de se faire frauder pour une simple identité volée par un fraudeur qui s'est acheté, par exemple, un iPhone et qui n'a pas fait ses paiements, ça peut être tout un casse-tête. Et c'est le cas de bien des gens. Puis surtout, ben, en parlant de notre auditrice qui s'est fait frauder par son ex, l'argent, il faut faire attention avec ça. Peu importe si on est en amour ou autre, gardez votre identité. Ne faites pas confiance à tout vent à n'importe qui, même s'ils ont l'air bien, bien gentils, qu'ils vous aiment fort. C'est triste que j'ai lu par texto. On s'en va écouter les Cowboys fringants, rock, camisole. On va essayer de remettre un peu de pep dans cette heure-là. L'heure CV, 10h43, au retour, on parle avec une organisation que j'apprécie particulièrement, qui a réussi à aller décrocher une subvention de la Ville de Québec. Elle est particulière aussi dans le contexte où on va jaser déficience intellectuelle la semaine prochaine. Ce sera la semaine sur la déficience intellectuelle. Mais il y a des gens que vous connaissez ou vous ne connaissez pas qui travaillent très, très fort pour la société, avec des aptitudes que nous, on a et qui, eux, n'ont pas, et qui ont une envie de continuer de contribuer à la société malgré tout. Et TAC, cette entreprise, organisation de la Ville de Québec, ben, elle leur permet d'avoir un emploi et une dignité. Pourquoi on en parle? Parce que, justement, on a décidé, en tant que gens de la capitale nationale, oui, c'est une décision de la mairie, oui, c'est une décision de Bruno Marchand, mais d'investir et de croire en eux, on parle au directeur de TAC dans un instant après les Cowboys fringants et Rock Camisole à Boulevard 102.1.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Je vous rappelle que c'est du soleil pour aujourd'hui. Ouais, du soleil sur la grande région de Québec. Moins 1 degré, cependant, ça va prendre une petite laine de plus. Ça pourrait monter jusqu'à 3 aujourd'hui. On est à la toute fin de l'heure CV. Je suis bien contente de faire une petite mention pour ce groupe qu'on aime parce que vous commentez beaucoup quand on vient qu'à parler du groupe TAC, une entreprise ici, enfin un organisme même, je devrais dire. En fait, il va pouvoir le dire lui-même, comment il considère qu'on devrait appeler le groupe TAC, mais dans la Ville de Québec. Il y a des travailleurs extrêmement touchants, contents d'aller travailler, qui se lèvent avec le sourire à tous les jours et qui se dirigent chez le groupe TAC. C'est une entreprise qui emploie une majorité de travailleurs qui vivent avec des limitations. Et au bout du fil, on a le directeur du groupe TAC. J'ai goût de dire bonjour, Gabriel. Quasiment rendu un habitué là, sur les ondes de boulevard, hein? Gabriel Tremblay, PDG du groupe TAC. Salut!
Bonjour, ma voix préférée.
C'est gentil, ça. Hey, c'est une super annonce qui a été faite dans l'actualité ce matin, mais en fait, il y avait un point de presse hier. On a octroyé une somme de 500 000 $ pour permettre la croissance du groupe TAC. Gabriel, peux-tu nous résumer un peu qui se présente dans vos locaux pour travailler tous les jours avec le sourire?
Ben effectivement, ben merci Pascal de mettre la lumière sur ce qu'on fait ici chez Groupe TAC. Ben ici, ben, on ouvre la porte à des gens, des personnes qui, en raison de leurs limitations, ben ont eu des échecs dans leur vie professionnelle, malheureusement. Mais chez nous, ben on les accepte comme elles sont, avec leur productivité souvent plus limitée. Mais nous, on valorise cette productivité-là, on les respecte comme ils sont. Fait qu'on a des gens qui, soit qui ont des déficiences intellectuelles, des problèmes de santé mentale, plusieurs limitations physiques avec autre chose, des autistes. Fait que tous des gens qui sont un peu différents, ben, parfois comme nous, mais des gens qui, chez nous, ont une belle productivité et sont très, très utiles pour plusieurs belles entreprises de la région de Québec.
Oui, et puis entre autres, ben on pense Biscuit Leclerc, Chocolat Favori qui a fait affaire avec vous. Il y a des entreprises très connues qui ont décidé de laisser un département à l'intérieur même de votre groupe. En fait, j'ai visité souvent le groupe TAC, puis je vais vous le dire, ben c'est une industrie en soi, là. Il y a une portion alimentaire, il y a une portion un petit peu plus pratique, manuelle. Vous avez récemment levé la main pour récupérer, recycler tout ce qui est test COVID, les démonter, puis faire le bon recyclage de ces tests-là. En fait, vous êtes proactif dans la société, vous êtes proactif pour ces gens-là qui seraient probablement sur l'aide sociale si jamais on ne les employait pas. Et ça fait rouler l'économie, ça leur donne une dignité, un sens à leur vie. Pourquoi vous demandiez une somme supplémentaire à la Ville de Québec?
Bien, c'est une somme vraiment qui va être très, très appréciée. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'essentiellement, à Groupe TAC, bien, on offre des travaux de sous-traitance pour plusieurs entreprises, mais ce n'est pas des travaux avec une grande, grande valeur ajoutée, parce qu'il y a beaucoup de travaux manuels, ce qui fait qu'on est théoriquement remplaçable par la robotisation, la mécanisation, Puis Coplac, comme toute entreprise, bon, on fait face en plus de cette concurrence-là qui est la robotisation et les technologies, dans le fond, bien, comme toute entreprise, on vit l'inflation, on vit la pression sur les salaires qui sont à la hausse, on vit aussi les taux d'intérêt élevés. Ça fait que nous, ce qu'on m'a personnellement et toute mon équipe, là, notre souhait, c'est que Coplac perdure pendant des dizaines d'années encore. Une belle façon, bien, c'est d'avoir un fonds d'impact qui va nous permettre justement de saisir toutes les opportunités qui vont, comme on l'a fait il y a 2 ans avec Faber, on a fait acheté les actifs des raquettes à neige Faber pour permettre aux gens de travailler. Fait qu'on veut que ces gens-là travaillent encore pendant plusieurs années. Puis avec l'aide de la ville, bien, si, exemple, pour saisir l'opportunité, il faut faire l'acquisition d'un équipement, j'ai n'importe quoi, de 200, 200, 300 000 $ avec la ville, on va être capable d'avoir une subvention liée à ça pour nous permettre que ça coûte moins cher à Coplac pour assurer les emplois de demain.
Finalement, d'avoir une certaine compétitivité parce que au-delà, c'est parce que vous êtes en affaires vraiment pour la valeur humaine, donner des emplois à ces gens-là, contribuer à la société, leur permettre finalement d'avoir un emploi parce qu'ils ne sont pas nécessairement employables ailleurs par leurs différences. Et ça fait 45 ans que vous existez. Vous vous spécialisez notamment dans l'assemblage de pièces d'usine, l'ensachage de produits alimentaires, la préparation de colis ou encore la production d'agendas personnalisés. Puis, c'est des entreprises qui vous font confiance d'abord et avant tout pour tout ce qui est social derrière ça. Mais comme toute entreprise qui voudrait faire affaire avec vous, eux aussi ont leurs propres contraintes. Soit il faut que ça roule, il faut que l'argent rentre. Et parfois, ben, ils vont aller solutionner d'une autre manière, peut-être avec l'industriel au lieu de la cause sociale qui est derrière TAC. Et ce qu'on vous a octroyé comme subvention, le 500 000 $ va permettre au groupe TAC, dans un horizon de 5 ans, de maintenir finalement 450 emplois là, actuellement ouverts et présents dans votre industrie. Ça faisait longtemps
que... Ça, c'est le minimum. Est-ce qu'on espère encore créer une cinquantaine d'autres emplois pour des gens qui, présentement, sont sans emploi, vivent de l'aide sociale? Mais
il y en a-t-il beaucoup dans la région de Québec qui sont sur une liste d'attente, finalement, pour entrer sur la marché?
C'est certain que si demain matin, on ouvrait les vannes pour, exemple, si on avait plus d'espace, plus de partenaires, on pourrait sûrement, 3, 4, 5 mois, augmenter le nombre de travailleurs, peut-être d'une cinquantaine de personnes, mais il y a 8 000 personnes handicapées sur l'aide sociale dans la capitale nationale.
Juste dans la capitale nationale.
Est-ce qu'il y a 5, 10 de ces gens-là qui ont des capacités d'emploi, assurément? Donc, plus on aura de l'expansion, plus on aura de partenaires, plus on sera connu, mais plus on sera en mesure de redonner une dignité à ces gens-là là, par le travail et par tout ce qu'ils peuvent faire concrètement là, pour des belles entreprises de la région de Québec, Tonami, Biscuit Leclerc, Chocolat Favori, mais il y a Family Prix aussi qui travaille avec nous beaucoup, Beneva, Alex Coulombe, Cogeco, plein d'autres, Hitachi, entre autres, avec les transformateurs d'Hydro-Québec.
Moi, je me demandais si, des fois, il y avait des calculs qui avaient été faits sur le fait de sortir une personne de l'aide sociale, à quel point ça peut être favorable, par exemple, pour même la capitale nationale économiquement, versus une petite. J'ai une petite parce que 500 000 $ c'est pas gros pour une enveloppe de municipalité ou encore de ville ou encore de gouvernement, mais élargissons ça. J'aimerais ça savoir si au prorata, on est encore plus gagnant d'employer ces gens-là avec le don d'une subvention versus les laisser sur l'aide sociale. Ce serait quelque chose qu'on pourrait développer ensemble peut-être et en reparler. Gabriel Tremblay du groupe TAC, merci d'avoir fait une petite parution dans leur CV aujourd'hui pour cette bonne nouvelle. C'était une promesse électorale faite par la Ville de Québec depuis l'automne 2021. On est en 2024 et enfin, c'est empoché, Gabriel Tremblay.
Effectivement. Merci à toi pour la lumière que vous mettez sur le groupe TAC.
À la prochaine, merci beaucoup. C'est la bonne nouvelle du jour, voilà, qu'on vous offrait dans leur CV. C'est quand même des partenaires. Je dis partenaires, mais c'est parce qu'ils passent à l'émission pour les bonnes raisons depuis quelques années déjà, les gens du groupe TAC. Un bonheur de les avoir reçus. Et restez là, Marceau de midi s'en vient, c'est tout pour leur CV. Un bonheur de vous avoir accompagné. Mon 40 heures.